Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hold on, everybody. Here it comes.
Spotzl, le podcast du gravel et du bikepacking, épisode lié au numéro 6 de Planète Gravel, ici Richard Delhomme en impro total dû à une nuit pourrie à cause de l'otite de ma fille. Mais néanmoins, aujourd'hui, je reçois Jean-Yves Coupu et nous allons parler de son nouveau vélo, un nouveau vélo absolument extraordinaire, à la pointe de la technologie, puisqu'il est en bois. Et pour un responsable de l'innovation de chez Salomon, c'est quand même le moindre des paradoxes. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ce vélo en bois avec Jean-Yves. Bonjour Jean-Yves, comment vas-tu mon grand ?
Ça va très bien Richard, et merci de m'accueillir.
Mais c'est toujours un ravissement, et je sais que nous allons avoir droit à une conversation fleuve, parce que non seulement tu es bavard, mais en plus tu n'es pas bavard dans le vent, tu es bavard pour dire des trucs super intéressants. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu m'expliques pourquoi ce choix d'un vélo en bois. Donc, le vélo en question est un Gastaboy, mais tout le monde le sait parce que si vous écoutez en partie cette interview, c'est parce que vous avez le numéro 6 de Planète Gravel entre les mains, que vous avez vu les photos, que vous vous êtes certainement interrogé. Eh bien voilà, ce que vous avez lu va être tiré de cette interview, mais avec plein de bonus, et notamment l'accent chatoyant du sud-ouest de Jean-Yves. C'est à toi.
Merci pour ça, Richard. Alors pourquoi ? Pourquoi un vélo en bois quand on est féru de technologie, de nouvelles choses ? Ouais, je me qualifie comme étant un techno-geek un petit peu, mais d'abord et avant tout, un passionné de vélo curieux. Donc, j'ai tout essayé dans le vélo. J'ai roulé sur tous les matériaux possibles et imaginables. De l'alu, de l'acier bien sûr, plusieurs types d'acier, du carbone, très très haut de gamme, du titane que j'ai toujours et que j'apprécie beaucoup, et puis ce dernier vélo qui est un vélo en bois. Alors bon, en rigolant on pourrait dire le bois c'est un peu le précurseur du carbone hein, puisque ça vient un petit peu de c'est une énergie fossile, enfin le carbone est tiré du pétrole, donc le pétrole c'est un fossile lié à la décomposition de matières naturelles, dont le bois. Non, plus sérieusement, pourquoi le bois ? Parce que je suis arrivé à une période de ma vie de cycliste où j'ai d'abord et avant tout envie de me faire plaisir sur le vélo et de me sentir en fusion avec ma machine. Je me suis rapidement rendu compte en roulant sur des vélos carbone ou de gamme ces dernières années, sans les citer, du Specialized S-Works, en Tarmac, même en Aetos, qui est un vélo qui est censé être un peu plus permissif, que ces vélos sont d'abord faits pour des gens qui sont extrêmement puissants et qui, s'ils veulent ressentir quelque chose de l'ordre de la synergie avec la machine, on doit déployer des valeurs de puissance qui sont plus du tout à ma portée quoi. Donc moi j'ai besoin d'avoir entre mes jambes un vélo qui réagit qui, lorsque j'appuie sur la pédale, va peut-être un petit peu bouger, mais qui va avoir suffisamment de résilience et d'élasticité pour me retourner la force moyenne que, ou la puissance moyenne que je vais lui mettre. Donc c'était un petit peu cette idée-là qui m'a fait vouloir m'intéresser à ce matériau, sachant que à l'origine, on faisait des matériaux qui étaient des matériaux, des objets de sport, qui étaient des objets qui avaient besoin d'une certaine élasticité avec ce matériau. Raquettes de tennis, des arcs, des rames même, des rames de bateau en bois, la rame elle plie, les perches du début. Il y a quelque chose à aller chercher avec ce matériau, encore faut-il savoir maîtriser la géométrie, savoir maîtriser la physique du matériau, savoir maîtriser les formes, savoir maîtriser la matière que l'on utilise aussi, puisque selon les essences, on n'a pas les mêmes propriétés. Donc voilà, et c'est comme ça que je suis tombé sur Eddie Janté, qui est l'artiste à l'origine de Gastaboy, qui est à la fois un cycliste de très haut niveau, puisqu'il a été champion du Languedoc-Roussillon sur route, et puis en même temps un artiste du bois, puisque c'est un ébéniste, troisième génération d'ébéniste dans sa famille, et qu'il manie tous les outils pour façonner le bois avec une maîtrise assez remarquable. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis intéressé au bois. Donc je me suis dit, écoute, dans le pire des cas, ça fonctionne pas, et ou disons, ça ne me va pas. Et ça finira comme un magnifique objet de décoration sur le mur de mon salon, parce qu'en plus c'est très beau. Et voilà, c'est la pire des choses qui pouvait m'arriver. Donc il se trouve que ça fonctionne. Ça fonctionne et que je prends un plaisir fou avec ce vélo, qui est certes avec ce premier vélo, qui était certes plus lourd qu'un vélo très très léger et en carbone, environ 1,5 kg, 2 kg de plus. Mais ça ne se sent absolument pas parce que, bon voilà, 1 kg sur un vélo de 8,5 kg, hein, comme j'ai l'habitude de dire, ça fait, quand on prend le poids du cycliste et de son équipement, ça fait 1,25% de gagné sur 80 kg à peu près. Quand on ramène ça au seul vélo, effectivement, ça fait 12,5%. C'est énorme, mais c'est pas comme ça qu'il faut compter les choses. Donc voilà. 1,25%, j'en suis plus là. Et ce qui compte, c'est avant tout me sentir en communion avec cette machine qui me procure un plaisir fantastique à monter, mais aussi par sa géométrie qui est très 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 bien faite en descente sur le plat partout, quoi. Voilà.
Donc, il est fait de quelle essence? Parce que
Alors.
je suppose que le cadre en tout cas est monobloc. Ou est-ce que c'est un assemblement de diverses essences, un petit peu comme finalement un cadre titane ou acier, où l'on va avoir un assemblage de différents tubes. Là, est-ce que c'est un assemblage de différentes essences?
Alors, Eddie te dirait, je peux tout faire. Et il a tout fait. Mon premier vélo était un vélo de route en noyer. Donc je le voulais en noyer parce que le noyer est très. D'une part, c'est la plus légère des essences qu'il travaillait à ce moment-là. Et d'autre part, c'était le matériau qui était le plus souple et le plus à même d'amortir les vibrations, et je voulais un vélo extrêmement confortable. Celui que tu présentes, qui est un gravel, lui est avec une géométrie particulière parce qu'il n'a pas de tube de selle, donc le tube vertical qui rejoint le boîtier de pédalier à la tige de selle. Il n'y en a pas. Et donc ça enlève un petit peu de rigidité structurelle à la machine que j'ai compensé en utilisant, enfin que Eddie a compensé en utilisant une essence plus rigide, plus raide, qui est le chêne. Donc ce gravel-là est en chêne. Le seul inconvénient du chêne, c'est qu'il est un peu plus dense, donc un poil plus lourd. Je le ressens vraiment pas. Et nous sommes arrivés à avoir un comportement qui est à la fois un comportement d'absorption pour tout ce qui est vibration et choc en vertical, et en même temps une bonne rigidité quand on se met en danseuse, par exemple, et qu'on accélère fort d'un point de vue latéral. Donc il y a cet équilibre entre l'amortissement vertical et la rigidité latérale qui est particulièrement intéressant dans cette structure. Ensuite, pour répondre à ta question, Eddie a déjà mixé des essences. Donc il a mixé du frêne avec du chêne, il a mixé du frêne avec du noyer. Donc noyer, frêne, chêne étant les trois essences qu'il travaille le plus fréquemment. Il a aussi fait des cadres en acajou, plus pour montrer une belle pièce que pour autre chose. En jouant à la fois sur les épaisseurs, le mix d'essence et la géométrie, on peut obtenir une multitude de comportements qui sont complètement différents. Ensuite, tu parlais de monobloc. Ce ne sont pas des cadres monoblocs, puisque c'est un concept ou un process d'assemblage qui est du lamellé-collé. Donc il y a des lames qui sont collées les unes aux autres, pressées, et puis ensuite, à partir de cette ossature qui est faite de lames collées les unes aux autres, Eddie vient travailler ça à la main, donc avec lime, râpe, biseau, etc., etc., des outils extrêmement manuels. Il n'y a absolument rien de mécanique ou d'automatisé dans son process pour arrondir, affiner, donner de la forme et de la fluidité au cadre et en faire une pièce remarquable d'un point de vue du design également.
Donc, si je comprends bien, l'absence de tube vertical, en tout cas de tube de selle, va amener un gros flex, une grosse flexibilité du cadre malgré l'emploi d'une essence rigide, donc le chêne, dans le cadre d'un vélo gravel que, en plus, tu vas utiliser sur de la longue distance, puisque dans 3 semaines maintenant, tu seras au départ. Donc là, pour préciser, pour être totalement précis, nous sommes le 11 avril et le 29 avril, tu seras au départ de Traca 360. Donc 360 km en Catalogne, autour de Gérone, descendre sur la côte et tout, aller manger une frite, tranquille. Ah ben ça, je te le souhaite, hein, franchement. Tu peux demander également à Johan, je sais plus comment mince, Johan, son nom m'échappe, comment on peut aller réveiller un vélociste sur la côte pour réparer un pneu découpé. Ça, il te donnera toutes les informations, il l'a fait l'an dernier. Et donc finalement, là, tu te retrouves avec un vélo de gravel, avec un vélo de gravel pas parfait, mais pas loin, dans le sens où il va filtrer les mini-chocs de la piste.
Tout à fait. Alors, moi j'ai coutume de dire un vélo parfait, ça n'existe que pour son propriétaire. Parce que chacun a besoin de choses qui sont un poil différentes. Et jamais je ne dirais que mon vélo est un vélo parfait et que vous devez tous l'acheter, quoi, ou rêver de le posséder ou de le rouler. Non, en ce qui me concerne, il me convient particulièrement bien, parce que c'est exactement ce que je recherchais. Et effectivement, j'ai cette combinaison de vélos qui me donne un certain rendement, un rendement certain, et en même temps le confort que je recherche, parce que effectivement, quand on fait 360 km et donc on est là dans du 20 heures à 24 heures de vélo, hein, sur un parcours qui est à 80% de gravel, que tu connais bien puisque tu l'as fait l'année dernière, le confort, c'est de la performance, quoi. Donc, on rigolait quand on disait ça il y a quelques années en arrière, mais aujourd'hui, voilà. Paris-Roubaix, c'était il y a 2 jours. Et puis, Mathieu Van Der Poel a gagné avec des pneus en 32, probablement gonflés à moins de 4 bars, quoi. Donc, ou à 4 bars. Ça y est, maintenant, c'est acquis. Alors, Peut-être pas pour tout le monde, parce qu'il y en a qui pensent toujours que plus c'est fin, plus c'est dur, mieux c'est. Mais il est acquis que le confort et un pneu qui s'écrase un petit peu sur le bitume, ça fait de la performance parce que c'est de l'énergie qui s'envole, c'est de l'énergie en moins qui s'envole vers le haut à chaque rebond. Chaque fois qu'un pneu rebondit, automatiquement, le vélo rebondit dans son ensemble et tout ça, ce sont des watts qui partent vers le ciel, alors que les watts, ça doit servir à aller vers l'avant. Et le cadre répond à cette intention qui est d'absorber les chocs, d'éviter que le vélo soit trop malmené. Et la combinaison du cadre plus des pneumatiques fait que là, je suis arrivé à trouver une harmonie qui est remarquable.
Alors, sur Paris-Roubaix hier, alors je ne savais pas que avant-hier, pardon, je ne savais pas que Mathieu Van Der Poel avait gagné sur des 32, ce qui n'a absolument rien d'étonnant. Sonny Colbrelli, il y a 2 ans, avait déjà gagné en 32, et à l'époque, Christophe Laporte, donc maintenant chez Jumbo, était encore chez Cofidis. Et en fin d'année de cette édition, j'avais lu une interview dans Vélomag où il expliquait que l'équipe Cofidis avait fait des tests en 32 pendant une partie de l'hiver, ils avaient testé les pneus et tout, mais le jour de la course, ils ne les avaient pas.
Oui, mais ça fait
Et
partie.
c'est, ils étaient en 25, 28, et ça fait partie des trucs que je ne comprendrai jamais avec ces équipes-là qui n'utilisent pas un matériel. Alors, je vais être un petit peu méchant, mais qui n'utilisent, enfin, qui font n'importe quoi globalement et qui restent sur des vieilles méthodes. Et il y avait. Alors que oui, du pneu large, ça amortit, ça filtre, ça va plus vite. Le vélo reste sur une ligne horizontale, au lieu, comme tu l'as très bien dit, de rebondir. Et voilà. Et dans le premier numéro du magazine, j'avais interviewé Bastien Donzé de chez Zip, qui a beaucoup étudié le problème. Et là encore ce matin, je vois bien que j'ai mal dormi parce qu'il m'avait parlé d'un athlète maintenant à la retraite qui avait gagné Paris-Roubaix Espoir, qui a coupé sa carrière très très tôt, un Américain. Donc peut-être tu vas te souvenir de qui je veux parler,
Taylor
et qui a
Finney, non?
largement étudié Taylor Finney exactement. Et il a démontré une différence entre, selon la taille de pneu évidemment, mais surtout la pression de pneu, une différence à vitesse égale qui se mesure en dizaines de watts. Donc c'est là, on n'est pas sur du gain marginal, comme perdre 1 kilo qui va faire gagner 4,5 watts à 7% dans une pente à 7%. Là, on parle de dizaines de watts pour se battre contre le vélo et battre contre le pavé. C'est
Mais
énorme.
enfin, je pense que dans quelques années, on verra du 35 sur Paris-Roubaix. Et je suis aussi convaincu que si des petits gabarits ou des plus petits gabarits comme Pogacar veulent venir sur Paris-Roubaix, parce qu'on a vu que le gabarit était quand même un facteur important. Pour éviter d'être trop chahuté,
Trop
et
secoué.
ben ça sera probablement une solution technique que ces petits gabarits-là devront employer. Prendre du pneu en 35 pour justement éviter de trop rebondir et de pouvoir garder cette adhérence-là. Mais je suis quasi convaincu que ouais, d'ici 5 ans, il y aura des coureurs pros qui utiliseront du 35 sur Paris-Roubaix.
Bah, des aventuriers en tout cas, des aventuriers. Tu parles de Pogacar qui est quand même, bon, qui est pas un petit gabarit, mais qui est pas non plus un poids-plume. À ton avis, Philippe Ogana, il avait combien hier?
Je ne sais pas du tout, mais enfin, moi, je l'imagine
Parce
pas
qu'il
en
fait
dessous de.
1,80 m, lui,
Ouais.
il fait 1,95 m, lui, donc c'est quand même un beau bestiau.
Ouais, bah, je l'imagine. Enfin, de toute façon, le mini aujourd'hui, sur une course comme ça, c'est du 30. Donc voilà, 30, 32, il était sur l'une de ces deux montes-là, probablement. Enfin, je pense qu'il n'y en avait aucun dans ceux qui étaient. Il n'y en a plus aucun maintenant qui sont en 28, comme c'était encore le cas 3 ans en arrière, 3 ou 4 ans en arrière. Mais
C'est quand même
c'est juste pour terminer là-dessus, hein, tu soulèves un sujet qui est un sujet qui est un sujet de culture, en fait. Le vélo est un sport, c'est hallucinant. Le vélo est un sport de croyance. Il y a des croyances dans le monde du vélo qui traînent depuis presque un siècle, parce que c'était comme ça à l'époque, avec la connaissance et la technologie qu'on avait à notre disposition, et ben c'est comme ça que ça doit être aujourd'hui. Pour beaucoup de gens, c'est encore ça, quoi. C'est assez hallucinant.
Bah ouais, mais bon, oui, bien sûr. Là, je suis, enfin, c'est pas moi qui dira le contraire. Tu sais très bien que les traditionnalistes et les, on a toujours fait comme ça, alors on continue. Ceux-là, je les méprise. Mais il faut aussi constater que bah, les Jumbo ou les DSM avec leur système de pression, bon bah ouais, festival de la crevaison chez Jumbo et puis DSM, on les a pas vus. Donc à un moment donné, ça, la technologie c'est bien. Effectivement, le Jumbo a recours à un arsenal technologique hors pair, mais à un moment donné, ça suffit pas, quoi. Et on l'a vu, ils ont dominé tout le début de saison. Et sur les deux dernières courses, Tour des Flandres et Roubaix, bah Woot, il était plus là.
Non, mais enfin,
Enfin, en tout, enfin, il était,
ouais.
il était plus là.
Oui.
Il était plus là. Voilà. Ouais, il fait que deuxième. Et quand je lis sur les réseaux, il méritait pas de gagner parce qu'il a ratonné dans la roue de Van Der Poel tout le temps. Moi, j'aimerais bien essayer de ratonner dans la roue de Van Der Poel au moins une fois dans ma vie, voir si ça peut durer plus de 20 mètres, quand même.
Ouais, mais enfin, tu vois, Richard, il faut faire. Il faut faire attention à ne pas mélanger la performance de la technologie quand elle émerge avec le potentiel de la technologie quand elle sera plus mature. Et alors bon, c'est clair que quand elle émerge et que tu es coureur professionnel et que tu n'as qu'une occasion de briller dans l'année comme Paris-Roubaix, tu prends pas trop, tu essaies de ne pas prendre trop de risques parce que l'occasion, elle se représentera que l'année prochaine. Donc c'est peut-être aussi un petit peu risqué que d'adopter ces nouvelles technologies-là, mais l'intention est une intention qui, lorsque on saura miniaturiser, lorsqu'on saura la rendre plus fiable, etc., etc., l'intention est intéressante. En tout cas, dans le cadre, pour en revenir au gravel et sortir de Paris-Roubaix, mais dans le cadre d'une course. D'une compétition où tu peux pas t'arrêter pour moduler ta pression, à mettre un peu plus, un peu moins, comme c'est souvent le cas sur les courses de gravel où tu as des terrains qui peuvent être très variés et très différents, surtout sur de la longue distance. Ce peut être des technologies qui peuvent être intéressantes. Encore faut-il qu'elles deviennent plus abordables financièrement, qu'elles deviennent plus fiables, qu'elles
Oui.
deviennent plus peut-être performantes aussi, mais on sait tous qu'il faut pas, voilà, il faut quand une technologie émerge, elle montre un chemin. Il faut être capable de se projeter sur ce que peut ou pourra devenir ce chemin-là lorsque les choses seront un petit peu mieux maîtrisées, quoi.
Alors, pour revenir à ton vélo, parce qu'on en était quand même là, ça soulève. Alors d'abord, on va faire une mini parenthèse sur les nombreuses années qui te restent à vivre. Mais malgré tout, tu m'as dit, ce vélo, il est en bois. Donc le jour où je vais trépasser, eh ben, je le ferai incinérer avec moi. J'enlèverai les roues, la selle et le guidon, et la guidoline, et les poignées,
Et deux,
et
trois
je le ferai
inserts.
incinérer avec moi.
Et deux,
C'est
trois.
vrai ou c'était une blague?
Non, non, c'est pas une blague. C'est pas une blague. Alors là, c'est vraiment pas une blague. Parce que ça m'est venu spontanément à l'esprit parce que les gens m'ont dit, mais combien de temps ça va durer? Et est-ce que dans le temps ça va tenir? Est-ce que le bois va pas bouger? Parce que le bois c'est un matériau vivant, ça bouge, etc., etc. Alors bon, au début je répondais, il y a des Stradivarius qui ont quand même quelques dizaines voire centaines d'années, et qui sont toujours des trésors. Et puis il y a des bateaux aussi qui passent leur vie dans l'eau et dont les coques sont toujours en très bon état. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, je vais pas faire boire un âne qui a pas soif, quoi. Si les gens veulent pas croire que ça peut durer longtemps, je vais pas leur dire que ça peut durer longtemps, parce que d'abord moi j'en sais rien. Eddie, il en sait rien non plus, parce que il fait ça depuis 4 ans maintenant, simplement. Donc je dirais, ben, si le cadre il me dure quelques années, ben après ces quelques années, ça sera un magnifique ornement sur un pédestal chez moi. Et puis, quand moi je serai plus là, eh ben, il partira avec moi. Et ça sera juste le symbole de ma passion de vie. Parce que je fais du vélo depuis l'âge de 9 ans. Et j'en ai 63 aujourd'hui. Et j'en ferai jusqu'à ce que je puisse tenir un équilibre en toute sécurité sur la route. Et voilà. Et puis, ça partira avec moi. Et ça sera un vrai symbole, et rien que ça me met la banane, tu vois. Voilà.
Rien que pour ça, t'as hâte de mourir, quoi.
Pas vraiment, mais rien que d'y penser, je me dis, bah tiens, tu vois, ouais, c'est
Ça sera pas si terrible.
bah non, et puis ça sera
Bah
non,
non.
ça sera un bon moment, quoi, tu vois, associer des choses comme ça avec une passion de vie, quoi. Je trouve que c'est génial. Voilà. Donc oui, c'est sérieux, c'est complètement vrai. Je ne l'ai pas dit en rigolant, et je le pense vraiment. Et je l'ai dit autour de moi
Ben
pour
dis.
que ça soit bien clair.
Bon, bah ben, au moins, les choses sont dites et bien dites. Alors, concernant ce gravel, pour rentrer sur des trucs un petit peu plus terre à terre, parce que là on était un petit peu dans la poésie, le toucher du bois et l'ésotérisme du bois, tu peux monter des pneus jusqu'à combien sur ce vélo?
Alors, je lui ai demandé de pouvoir monter jusqu'à du 48. Donc voilà, c'est presque un petit peu juste, parce que j'aurais bien aimé essayer dans du gravel un peu engagé, tu vois, comme il peut y avoir dans le sud, avec des cailloux un peu tranchants, du 52, 53, voire 55. Ça pourrait être bien. Après, le problème qu'on a avec ce matériau, c'est que c'est difficile quand même d'aller au-delà d'une certaine finesse au niveau des bases, tu vois. Donc,
Ouais.
aller chercher du 50 et plus avec des bases en bois, il faudrait un petit peu repenser la chose, quoi. Mais ça doit être complètement jouable, hein. Moi, du 48, ça me va. Je trouve que déjà on peut passer dans plein d'endroits un peu cassants, quoi. Si tu as la bonne pression et que t'es pas une truite au niveau du pilotage, ça doit marcher, quoi, tu vois. Donc enfin, en tout cas, j'ai jamais été mis en difficulté avec une section telle que celle-là, quoi. Donc ça me va bien, et il y a pas de souci. Après, il faut avoir des bons pneumatiques, et voilà.
Ouais, tu vas mettre quoi? Alors, question subsidiaire avant que tu me parles des pneus et de savoir ce que tu vas mettre. Est-ce que tu as reçu tes roues à bâton en carbone? Parce que ça, c'est quand même un truc
Alors,
assez extraordinaire et qui est tout dans ton paradoxe, c'est que tu as un vélo en bois pour le côté souplesse. Par contre, tu t'es récupéré une paire de roues à bâton d'une marque anglaise absolument démentielle. Déjà, est-ce que tu as reçu ces belles roues à bâton?
la marque, c'est Lavelle. Et alors, j'ai pas reçu les miennes parce que je leur ai demandé des roues un peu spéciales, et comme ils font un petit peu du custom. Ils peuvent régler la rigidité de la roue en fonction du layering qu'ils utilisent pendant la fabrication. Et donc moi je leur ai demandé quand même une paire de roues pas trop raide.
Oui.
Et en attendant, ils m'ont envoyé une paire de roues qui est une paire de roues classique avec la raideur qu'ils font ou qu'ils proposent habituellement. Donc celles-là, je les ai reçues. Mais il me manque un disque pour les monter et les essayer, donc je ne les ai pas encore essayés. Mais je vais rouler avec ça à la traca, ouais. Je vais rouler
Ah
avec ça à
putain,
la
ça.
traca.
Hey, ça va claquer, hein. À mon avis, tu vas attirer les regards et Alejandro Valverde va venir te voir pour te demander ce que c'est. Ça, en tout cas, je te le souhaite. Vraiment, je te le souhaite infiniment. Et c'est vraiment chouette.
Non, mais tu sais,
Mais il y a quand même un petit que.
tu parles de, tu sais, ces gens-là, ils sont amoureux de matos aussi. Quand j'ai montré mon vélo
Mais bien sûr!
quand j'ai montré mon vélo sur les réseaux sociaux, un des premiers à dire, oh, ah, putain, je veux l'essayer, c'était Laurent Brochard qui s'est mis au
Mais
gravel aussi
grave!
et qui va donc participer aux UCI, une gravel series. Et pour se préparer pour le championnat du pour se qualifier et se préparer pour le championnat du monde. Et voilà, il a dit, bon, putain, ce vélo, il est incroyable.
Je suis désolé, je rigole parce qu'avant la conversation qu'on a eue, on parlait de Valverde et tu me disais, ouais, Valverde, il est sympa malgré la réputation et le passé qu'il a. Excuse-moi, mais Laurent Brochard, c'est pas mieux, hein. Désolé.
Ah, mais enfin, ouais, moi je veux pas parler de ça, quoi, tu vois,
Mais on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. Bon,
je
en tout
vois.
cas, je suis content qu'il remonte sur le vélo. Je suis bien content de le voir sur un vélo, lui. Parce que lui, par contre, aussi, c'est un mec sympa. Un
Ouais,
peu taiseux, mais sympa.
c'est un mec timide, mais qui a jamais eu la grosse tête. Enfin, c'est des mecs qui sont adorables, quoi, tu vois. Et puis, moi, excuse-moi le terme, mais ça me casse les couilles là de voir un ex-collègue de promotion d'il y a combien? 40 ans, qui s'appelle Monsieur Antoine Vaillé.
Ah!
Casser du sucre sur le dos de tous ces mecs qui roulent un peu vite et un peu fort. Alors, voilà, se construire une réputation là-dessus, ça m'exaspère. Je ne dirai pas
Bah,
plus.
tu sais, moi je suis hyper fier du jour où j'ai été insulté par Antoine Vaillé sur Twitter. Hein. J'ai fait une capture d'écran. Il m'a dit, monsieur, vous êtes un âne. Ah, putain, moi c'est la consécration sur Twitter. Hein. Être insulté par Antoine Vaillé, mais tous les coureurs rêvent de ça. Parce que juste avant, il avait insulté Remco Evenepoel. Donc moi, je passe derrière, je fais podium derrière Remco, tranquille, super content. Bon, alors, attends, parce que je reviens, j'ai pris quelques petites notes.
Donc les roues. Alors
Malgré tout, on a
pour finir avec les roues,
oui, les
Richard,
roues. Voilà, voilà, les
tu m'as
roues.
dit quel pneu vas-tu utiliser? Gros dilemme.
Exactement.
Gros dilemme
Alors, oh là.
parce que j'hésite
Alors, on m'a.
entre deux pneus, enfin deux marques de
Vas-y.
pneus aujourd'hui, que sont
Ouais.
René Hert, donc en version endurance, parce que les versions extra light que j'adore sont quand même un peu fragiles des flancs sur les cailloux un peu tranchants.
Ouais,
Euh,
et à
donc,
tracas, tu en
euh,
auras.
donc euh, voilà, donc j'hésite entre des René Hert en version endurance, qui en fait c'est la carcasse de l'extra light, mais qui est un petit peu plus serrée. Et un petit peu renforcé de l'extérieur avec une petite couche supplémentaire d'enduit. Et des pneus que j'ai découverts il y a quelque temps et que j'ai récemment utilisés dans le Languedoc, là, sur une rando-course gravel de 70 km, là, qui s'appelle Ultra Dynamico, que j'ai adoré. Donc, ce sont des pneus qui sont comme les René Hert, hein, c'est une carcasse très souple aussi, avec beaucoup de nervosité, de rebond, de résilience. C'est des super pneus. Et en plus, ils ont une belle gueule parce qu'ils existent en chape couleur grise, donc ça fait un bel ensemble.
Je te laisse continuer, je vais les chercher. Je les
T'en
ai,
as?
je les ai. Ben ouais, je vais vous les montrer.
Donc ouais pour
Attends, je viens de réagir que j'ai mon casque Bluetooth et que je t'entends encore. C'est quand même merveilleux là-dessus.
c'est génial.
Je vais essayer de les retrouver.
Donc en fait ces ultra dynamicaux là je les ai montés en version non appairée. Et j'ai une version, alors les deux font 42 et un peu plus parce qu'ils sont montés sur des jantes qui sont pour l'instant en 25 internes, donc ils doivent faire à peu près 44 en réel. Et j'ai monté donc un cramponné, je me souviens plus du nom, à l'avant, et un qui est un petit peu plus slick, avec une microstructure à l'arrière. Donc j'ai un très très bon rendement. Ouais, c'est ça.
Le modèle, ça va. Le Sava, il y a le... Donc, attends, je me rapproche de mon micro. Le rosé est un poil plus cramponné et le Sava, il a ce profil-là, donc avec des micro-picots et voilà. Des losanges sur le dessus.
Alors celui-ci, voilà. Je l'ai
là,
monté...
C'est écrit dessus. Hein.
J'ai monté derrière celui-ci et à l'avant, j'ai monté le rosé qui est... Alors je ne vois pas bien, c'est un peu flou. Qui a des crampons c'est latéraux en fait. Il a des crampons latéraux sur les... Ouais. Sur les bords. Alors, pourquoi j'hésite? J'hésite parce que le concept de crampon latéral, en fait, c'est intéressant en théorie. Ça marche bien quand tu roules droit, mais en revanche, ça te fait un pneu qui a un profil un petit peu rectangulaire. C'est-à-dire il a des épaulements qui sont assez hauts, et au bout d'un moment, si tu prends de l'angle... Ces épaulements, ben ça lâche d'un coup, quoi, tu vois. Tandis que le René Hertz, il a cette structure cramponnée qui est très ronde, très arrondie et qui descend sur les côtés aussi, ouais. Et qui va au-delà de l'angle que tu peux prendre. Et donc, tu as toujours le même type d'adhérence sur le pneu, quel que soit l'angle que tu prennes, et c'est un peu plus sécurisant quand même en virage rapide où tu peux prendre un peu d'angle, tu vois. Donc c'est pour ça que j'hésite entre les deux.
Je reviens, je vais te montrer deux pneus pour illustrer ce que tu viens de dire, parce que c'est hyper intéressant, on n'en parle jamais. Je vais te montrer deux exemples, enfin je vais vous montrer deux exemples, je reviens.
Yep.
Alors... Dans la catégorie pneu avec un petit peu de crampon sur le côté, voici le Continental Hard Pack. Et donc, petit crampon sur le côté, bien roulant, bien roulant sur le dessus, mais par contre avec un profil, tu vois, complètement rectangulaire. Donc en fait, ça c'est un pneu qui tourne quasiment pas, ou alors il faut dégonfler et attendre qu'il soit un petit peu assoupli pour commencer à prendre de l'angle. Mais les premières sorties, t'as l'impression de devoir tourner à plat, c'est hyper bizarre. Et ma petite folie du moment, que j'ai adoré, le Schwalbe G1 RS, qui est lui aussi roulant, avec, comme tu peux voir, des petits pavés sur le côté, mais avec un profil légèrement, vraiment bien, bien arrondi. Et lui, c'est une merveille. C'est vraiment une merveille. Il roule hyper bien. Et en prise d'angle, ça passe tout seul. Voilà.
Donc, c'est
alimenté parce que ce que tu as cité, ce sont évidemment des super pneus, mais qui sont à 80-90 euros l'unité. Alors que le hard pack, il est beaucoup plus abordable. Il me semble qu'il est même entre 30 et 40 euros. Et le G1 RS, il est autour de 40-45, en tout cas entre 40 et 50 euros pour un pneu haute performance. Et tout à l'heure, je te parlais de Sébastien Breuer. Il a gagné Badlands avec les RS.
Ouais, ils sont.
C'est aussi pour ça que je les ai pris.
Oui, t'as bien fait de montrer ça, parce que effectivement, ceux que je t'ai cités sont très très chers et Alors bon, moi j'ai la chance de faire durer les pneus, quoi. Donc je crève pas souvent, je déchire pas souvent. Ça fait partie des petites folies que d'aller chercher un pneu qui est un pneu avec des carcasses de fil de très très bonne qualité, très serré. Mais oui, tu as raison, on peut trouver des pneus à des tarifs qui sont bien plus abordables que les deux marques dont j'ai parlé.
Mais c'est intéressant quand même, parce que c'est toujours bien d'aller voir un petit peu dans ces marques exotiques qui sortent des sentiers battus, qui osent expérimenter des trucs sur les dessins, sur les structures, sur les coloris aussi. Et c'est bon. Alors après, on peut se le permettre ou pas, on a envie ou on peut, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, être au courant de ce qui existe, c'est important. Ça fait partie de la culture. Ça c'est chouette.
Ouais. Et tu sais, alors moi j'aime pas rouler dans la boue, quoi. Tu vois, c'est un truc, je peux pas. Sauf quand je suis obligé, mais J'aime pas rouler dans la boue et du coup, ça m'a. J'ai souvent roulé en gravel sur des parcours secs, cassants, techniques, etc., avec des slicks. Et j'adore rouler en slick. Des slicks de gros volume, je trouve que c'est assez magique comme comportement, comme rendement, etc. Et tu te fais plaisir. Alors après, dès que c'est mouillé, que ça glisse, effectivement, t'as plus aucune traction, t'as plus aucune adhérence, t'as plus rien, quoi. Et en descente, je t'en parle pas parce que là, tu pars en glissade tout de suite. Mais c'est vraiment sympa de rouler en slick quand on est sur des terrains qui le permettent.
Bah, l'année dernière, Tracas, donc il avait énormément plu la veille de la course. Et j'avais les Pathfinder Pro de chez Spé avec la bande parfaitement lisse sur le dessus. Donc les 10-15 premiers kilomètres avec les grandes flaques de boue, les grandes flaques d'eau, ça a été très, 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 très rigolo. On a bien rigolé. Après, le soleil est revenu, donc on a passé une journée très agréable. Mais tout le début, ouais, a été un petit peu cocasse. Mais c'était pareil pour tout le monde, vu l'état de la route, enfin du chemin. Donc, et puis, ça s'est pas si mal passé que ça, hein, finalement. Hein. Parce qu'on a, là, on dit slick, slick, ça glisse dans la boue. Mais si on se met bien sur l'arrière et qu'on met du poids et qu'on bouge un peu sur le vélo pour aller chercher du grip, eh ben, ça passe pas si mal que ça, quand même.
Ouais,
Malgré tout.
après, voilà, il faut juste pas se retrouver sur des dévers ou sur des pentes à plus de 20% où là t'as vraiment besoin de traction, quoi, tu vois. Mais
Sur le début du parcours, il n'y a pas ça.
tu me fais
Il n'y a pas
sourire
ça.
parce que
Sur le.
je regardais encore ta vidéo hier et tes petits cris de temps en temps. Oh,
Non, non,
c'était
moi,
hilarant.
celui dont je me souviens le plus, c'est le Ah! Parce
Oui.
que bah, tu sais que j'avais une suspension à l'avant. Et en fait, à un moment donné, il y avait une longue descente bien pentue, vraiment rapide, avec de la tôle ondulée. Et à un moment, donc j'étais en suspension sur les jambes, avec les fesses hors de la selle. Et à un moment donné, le vélo a un petit peu décollé. Je me suis fait. Bah pareil, moi je vais être vulgaire, je suis désolé, mais je me suis fait claquer les couilles par la selle un coup. J'ai eu mal. J'ai eu mal, je suis désolé. C'est vraiment pas agréable, mais j'ai passé une super journée parce que tu vois, t'as vu avec qui j'ai roulé après, et c'est quand même, ça fait partie encore de la magie du vélo de temps en temps que d'être mauvais et de pouvoir rouler quand même avec les champions. Et ça, ça reste un immense plaisir, vraiment.
Ouais.
Bien, ton vélo en bois, c'est super, mais ça soulève quand même une énorme question. Dans le dernier numéro, j'ai interviewé Stephen Fitzgerald de Rodeo Labs, et qui, à un moment donné, dit les vélos de route et les VTT sont devenus hyper exclusifs parce que leur promesse est de rouler comme les champions, ce qui est absolument intenable, tu l'as dit tout à l'heure. Ce qui sous-entend que les vélos de route, en tout cas si on se réfère aux vélos de route, comme tu l'as mentionné tout à l'heure avec les tarmacs SL de chez Spé, sont des vélos hyper rigides, hyper exigeants et finalement épuisants. Est-ce que on n'aurait pas tout intérêt, passé un certain âge ou en dessous d'un certain niveau de pratique, de s'orienter vers des vélos non pas ultra compétitifs pour ressembler à Remco, mais plutôt sur des vélos un petit peu plus souples, un petit peu plus tolérants, qui ne nous cassent pas en deux lorsque l'on rentre à la maison et qui nous permettent de repartir à peu près en un seul morceau le lendemain. Est-ce
Ouais.
que le marketing ne nous envoie pas un petit peu au casse-pipe quand même? Parce que là, on est en plein dedans quand même. J'aime pas cette
Donc,
expression, mais nous envoyer sur des vélos ultra rigides, ça reste quand même que du marketing. L'argument du poids et de la rigidité, quand t'as 50 ans et que t'as une FTP à 180, c'est pas bon.
alors oui et non. Alors, je vais te dire pourquoi je dis non. Parce que, alors, déjà, c'est pas. Bon, pour te reprendre un petit peu, je crois que tu as dit en dessous d'une certaine pratique. Moi, je dirais pas en dessous d'eux parce que dans la pratique, je mets pas de hiérarchie. Il y a des gens qui font de la compétition courte, longue, explosive, à un niveau professionnel. Et puis, tu as des gens qui font de la longue distance. Et voilà. Et les deux sont absolument pas comparable. Donc je ne dis pas qu'il y en ait un qui est au-dessus de l'autre ou en dessous de l'autre.
Oui.
C'est une pratique différente.
On peut nuancer un
Donc,
peu, en effet.
Ouais,
c'est complètement à nuancer, bien sûr.
Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu dis c'est marketing, moi je vais te dire, je vais être beaucoup plus méchant que ça, et je vais dire c'est facile de dire c'est du marketing parce que ça pointe du doigt les marques. Et ça fait abstraction du manque de discernement des gens. Et je vais te dire pourquoi du manque de discernement des gens. Tu prends une marque comme Specialized. Specialized, ils ont des segments. Alors, il y a un segment, une franchise, comme on dit dans l'industrie, qui s'appelle Tarmac. Tu en as une autre qui s'appelle Aetos. Tu en as une autre qui s'appelle Diverge. Tu en as une autre qui s'appelle Crux, etc. etc. Tu as plusieurs piliers comme ça, et pour chacun des piliers, ils ont une version qui est une version haut de gamme. Mais un pilier correspond à un niveau de pratique, à une discipline, on pourrait dire, une façon de faire du vélo, avec des attentes spécifiques. Et tu peux retrouver du très très haut de gamme dans chacune de ces familles-là, puisqu'il y a une version S-Works, à des tarifs hallucinants, prohibitifs, je dirais, pour chacune de ces familles-là. Donc si la personne qui n'a pas les moyens, qui cherche à faire de la distance un peu plus longue, ou en tout cas qui privilégie le confort, elle s'oriente vers un Tarmac SL7, dans la génération actuelle, c'est parce que elle ne réfléchit pas intelligemment, et elle se dit, moi je veux le même vélo que Remco Evenepoel, Julien Alaphilippe ou Peter Sagan. Mais le vélo qu'il lui faut, c'est pas celui-là. C'est peut-être plus un Aetos, voire un Diverge, si tu veux quelque chose qui est plus confortable et plus adapté à tes moyens physiques et à la pratique que tu fais. Donc, j'irais le SPE, pour continuer à parler de SPE, n'a jamais dit à tout le monde, c'est le Tarmac qu'il vous faut. Ce sont les gens qui, par mimétisme et volonté d'avoir la même chose que les pros, en se disant si c'est bon pour eux, c'est bon pour moi, si eux, ça les fait aller plus vite, moi, ça va me faire aller plus vite, ils ne se rendent même pas compte qu'au contraire, ça va les faire aller plus lentement. Donc, voilà, le marketing a quand même bon dos. C'est facile de dire c'est le marketing, mais je pense qu'il n'y a pas plus de marketing chez un Specialized pour un Tarmac qu'il y en a pour un Diverge quand ils sortent le Diverge. C'est exactement le même dispositif de marketing qu'ils utilisent. Sauf que Remco Evenepoel, Julien Alaphilippe, Peter Sagan, ils n'utilisent pas le Diverge. Ou ils utilisent le Roubaix qu'une fois par an lors de Paris-Roubaix. Alors que le Roubaix, c'est un vélo qui est idéal pour peut-être 80% des cyclistes qui veulent un vélo de cette marque-là.
J'en suis ravi parce que mon père a un Roubaix, un S-Works Roubaix, donc je vais l'appeler tout à l'heure, je vais lui dire, écoute mon gars, t'as le vélo idéal.
Parfait.
D'ailleurs, j'y vais dans 3 semaines, je vais lui filer ma Mirror, donc il va être super content avec.
Je sais pas, il faut encore que ça lui convienne, mais voilà, moi aujourd'hui, j'achèterai jamais un Tarmac, jamais plus j'achèterai un Tarmac. J'ai un Roubaix, et je peux te dire que je roule beaucoup plus vite sur le Roubaix que ce que je ne roulerai sur un Tarmac. Et puis après, ben, y a des gens qui sont des coursiers, qui sont encore capables qui sont capables, même un amateur, de sprinter, de développer 1200, 1300 watts. Eh bien, tant mieux s'ils ont l'impression que le Tarmac, c'est le vélo qui leur convient. Mais c'est en aucun cas le vélo qui convient à des personnes comme moi, quoi. Et les personnes comme moi, elles sont... Enfin, je ne me jette pas de fleurs parce que je suis loin de ce que j'ai pu être, mais elles sont quand même largement au-dessus du panier moyen, quoi. Des gens de mon âge, tu vois. Donc, voilà.
Ah oui.
Faut à un moment, faut mettre un
Donc,
peu de raison, quoi.
Ce qui signifie que le choix du bois, si on en revient un petit peu à ça, c'est quand même un choix extrêmement judicieux, parce qu'au-delà de l'aspect esthétique, voire même pratiquement éthique, ou même existentiel, c'est aussi un choix de confort et d'énergie sur le long terme.
Oui, oui, oui. Et ça me... En fait, tu vois, ce qui me désole un petit peu, c'est que on pourrait faire la même chose avec du carbone. Et c'était un petit peu ce que les vélos dits endurance ont proposé pendant quelques temps. Un carbone qui est structuré d'une telle manière qu'il puisse amener le confort. Parce qu'avec le carbone, on peut faire ce que l'on veut, quoi. On peut faire quelque chose qui est absolument pas du tout flexible, et comme quelque chose que tu peux plier en deux comme ça et qui va revenir. C'est possible avec le carbone. C'est malheureusement trop rare, et on utilise le carbone en y ajoutant des artifices de confort que sont des suspensions, alors que le carbone en lui-même pourrait apporter cette résilience et ce confort par lui-même, en tant que matériau. Et c'est clair qu'aujourd'hui, si je m'adresse à quelqu'un qui recherche le confort, je lui dirais, ben, parmi les options les plus accessibles et les plus répandues, ben, t'as l'acier, puis après t'as le titane, et puis après le bois, c'est une option qui est intéressante.
Tout à l'heure, tu as dit, j'ai roulé, je l'ai noté dans mes petites questions, mais je l'ai vu aussi il y a deux jours dans un post sur un groupe Facebook, et ça m'a interpellé un petit peu. Tu as dit, j'ai roulé sur tout type de vélo, tout type de qualité, de carbone, etc. Est-ce qu'il vaut mieux un mauvais titane qu'un bon carbone bien étudié? Enfin, je veux dire, est-ce que le titane, le bois sont des matières immuables, si on peut dire, carbone c'est carbone, titane c'est titane, ou est-ce qu'il existe des différents types de qualités? Est-ce qu'un titane c'est un titane, ou est-ce qu'il y a des titanes vraiment mieux que d'autres? Et même, est-ce qu'on peut tomber sur un titane de mauvaise qualité, de la même manière qu'on peut tomber sur un carbone mal conçu, mal étudié, trop rigide, ou au contraire sur un carbone qui va avoir des propriétés finalement bien plus intéressantes qu'un titane de mauvaise qualité? Ce dont on parle là avec le bois, c'est ça finalement. C'est le choix du matériau, et qu'est-ce qu'on fait d'un matériau? Est-ce qu'on dit le titane c'est le titane, comme on dirait un 4x4 c'est un 4x4, donc eh ben, très bien, j'ai un Dacia Duster, eh ben, je vais faire le Paris-Dakar avec. Est-ce qu'un gravel c'est un gravel, et bah très bien, j'ai un Triban, et bah je vais aller faire le Tour Divide avec. Ou est-ce que au contraire il y a différentes nuances? Est-ce que en 2023 on arrive encore à nuancer ce que l'on dit? Et quand on voit sur les réseaux j'ai envie de m'acheter un titane, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a différentes qualités de titane? Est-ce qu'il y a différentes qualités de carbone, d'acier, de bois? Est-ce qu'on peut nuancer ces réponses à brûle-pourpoint?
Alors, oui, il faut les nuancer, parce qu'effectivement, un cadre, c'est une combinaison, caricaturalement parlant, c'est une combinaison de deux choses, la matière et la structure, la géométrie. L'architecture, je dirais, la façon dont tu conçois ton vélo. Si tu t'intéresses qu'à la matière, le titane, c'est relativement simple parce que, basiquement, on trouve que deux qualités de titane dans le vélo. Il y a eu d'autres essais, mais c'est pratiquement deux qualités de titane qui sont deux alliages différents. Il y a un alliage 3-2-5 et un alliage 6-4. Le 3-2-5 est celui qui amène le plus de confort. Le 6-4 est celui qui est le plus rigide. Donc on trouve plus généralement de 3-2-5 que de 6-4. On peut trouver une combinaison des deux. Mon cadre titane de route, là, fait par le Vacon, c'est une combinaison de 3-2-5 et de 6-4. Avec un tube en 6-4 et le reste en 3-2-5. Donc, dans le titane, c'est relativement simple. Dans le carbone, c'est bien plus compliqué parce que le carbone, c'est un composite, hein, c'est le carbone pur, ça n'existe pas. C'est toujours un mélange de fibres avec de la résine. Quand on parlait de carbone à une certaine époque, on parlait de carbone high modulus et de carbone low modulus. Le high modulus, c'est un carbone qui était très rigide parce qu'il y avait moins de résine et plus de fibres. Et puis le carbone un peu plus basique, eh ben, on rajoutait de la résine et on mettait moins de fibres. Bien entendu, il y a des raisons de coût derrière également, parce que la résine, ça coûte moins cher que la fibre. Donc voilà, un carbone plutôt bas de gamme, c'est un carbone qui va avoir plus de résine que de fibres de carbone. Un carbone plutôt haut de gamme, c'est un carbone qui va avoir plus de fibres que de résine. Mais les carbones haut de gamme, avec plus de fibres que de résine, sont aussi généralement beaucoup plus raides, beaucoup plus rigides. Ils sont aussi plus légers. Voilà, c'est très compliqué, on peut pas. Et l'acier, c'est pareil. T'as des aciers de merde, et puis t'as des aciers inox de grande qualité, très fins. J'ai un cadre à la maison, enfin un vélo à la maison que je roule plus, mais que je tiens à garder, qui a été fait par un artisan qui s'appelait François Quérotret, qui faisait des cadres donc dans un acier qui est un acier très très haut de gamme, qui est un acier Maxtal, en 3/10 d'épaisseur. C'est extrêmement. Si tu appuies sur le tube supérieur, si tu appuies avec très fort avec deux doigts, tu arrives à sentir l'acier fléchir sous tes doigts. Tu vois, faut pas le mettre dans une pince d'atelier comme celle que tu as derrière, quoi, parce que ton cadre, tu le marques. Donc, et à côté de ça, tu as des cadres qui étaient faits, comme on disait dans le temps, voilà, comme on disait dans le temps, fait. Un tube de tuyaux de chauffage, hyper épais, très lourds, qui n'ont aucune vie, qui te rendent rien, qui répondent pas, qui sont pas du tout nerveux. Donc voilà, le matériau est une chose. Il y a plusieurs qualités dans tous les types de matériaux. L'acier, on joue sur la qualité à la fois sur la matière elle-même, entre des aciers basiques et des aciers inox, et aussi sur l'épaisseur que l'on travaille avec du double button, triple button, quad button aussi, il y a eu à une certaine époque, je crois, avec Ricci. Le carbone, c'est un composite et en fonction de la quantité de composants que l'on met, que ce soit de la fibre ou de la résine, on obtient des choses différentes. Sans parler après de la structure, du layering, des épaisseurs, des couches de tissu que l'on peut mettre, etc., etc. Le titane, c'est un peu plus simple dans la façon de l'aborder. Je dirais que le titane, c'est plutôt l'art de la soudure qui va être important parce qu'elle doit être faite dans certaines conditions pour éviter qu'il y ait une oxydation. Il faut que ça soit fait sous un gaz inerte et éviter donc de la contamination du tube par corrosion à cause de l'oxygène qu'il pourrait y avoir. Et puis le bois, eh ben le bois, on joue sur les essences, sur les formes, sur la géométrie, enfin voilà. Mais on ne peut pas dire un vélo en carbone, c'est mieux qu'un vélo en titane, ou un vélo en acier, c'est moins bien qu'un vélo en titane, ou un vélo en bois, c'est moins bien que. Non, on peut faire des trucs merdiques comme des trucs exceptionnels avec tous les matériaux, je dirais. Le choix n'en est que plus difficile.
On est d'accord. Bon, alors, je vais t'encourager à regarder, ça va certainement te motiver. Là, tu peux voir le dossard de Traca, la première édition, et l'édition de l'année dernière. Voilà, tout simplement.
Cool.
Ouais, parce que j'ai fait la première édition, et c'était une course à étapes, en fait.
Ouais,
Il y
c'est
avait,
vrai.
c'était sur 2 jours et la première étape avait été raccourcie à 80 km seulement parce qu'il y avait eu un orage énorme sur Gérone et ça avait été menaçant, c'était absolument génial et ça roulait mais à une vitesse. Pouf! C'était super, voilà. Bien. Je suis arrivé un petit peu au bout de mes questions, figure-toi, parce que on a parfaitement couvert, je trouve, le sujet. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter?
Bon, en ce qui concerne...
Si, il y a un truc, il y a un truc dont je voudrais parler avec toi. Parce que on en a déjà parlé un petit peu la semaine dernière lorsque l'on s'est eu, ou il y a 2 semaines lorsque l'on s'est eu au téléphone quand tu étais en route, ou en tout cas tu allais être en route pour Montpellier et cette épreuve, c'est la notion d'innovation dans le vélo et la qualité des équipements. Comme je te l'ai dit, là je suis en train de préparer une interview avec, avec le mec de Hammerhead, donc une marque de GPS, et... grâce à toi, j'ai eu un sac de trail Salomon, parce que bon, pour le rappeler, pour ceux qui ne le savent pas, tu es responsable de l'innovation chez Salomon. Et grâce à toi, j'ai eu un sac de trail Salomon pour les épreuves longues et bénéficier de gourdes, enfin en tout cas de flasques sur l'avant des sacoches, chose que je n'ai pas sur les autres. Et je suis quand même toujours sidéré par le manque d'adaptation de nombreux accessoires, de nombreux équipements cyclistes à nos pratiques gravel, tout terrain ou longue distance. Ton opinion là-dessus? Que ce soit les GPS, les sacs d'hydratation ou plein d'autres trucs, les cuissards. Là, bon, évidemment, les cuissards, on commence à avoir de plus en plus de cuissards avec des poches sur les côtés, avec des matières beaucoup plus renforcées pour éviter les accrochages dans les... déjà, les chutes qui peuvent arriver, les chutes bêtes, comme s'il existait des chutes intelligentes, mais également les accrochages dans la végétation. Donc, on commence à voir quelques tentatives. Mais d'une manière générale, je trouve qu'il y a trop encore une transposition de la route ou du VTT vers le gravel sans prendre en compte la spécificité de nos pratiques en termes de longueur, de navigation, de quête de poids, de plein de trucs. Ton opinion là-dessus?
Mais mon opinion là-dessus, c'est que il faut toujours partir du problème, quoi. C'est-à-dire que l'innovation, c'est une solution qui doit amener une réponse à un problème de l'utilisateur. C'est rien d'autre que ça, quoi. Sinon, ça s'appelle une invention, et une invention, si elle ne répond pas à un problème, ça reste une invention, un truc de géotrouve-tout, mais c'est soit une démonstration de savoir-faire technologique, soit quelque chose d'autre, mais qui a pas de marché, qui trouve pas de marché. Donc il faut d'abord se poser la bonne question, ouais. Et la bonne question, c'est quels sont les problèmes que je rencontre quand je fais du gravel. Alors si j'utilise des équipements de route, sur la route, c'est un terrain qui est sans trop... Alors, voiture mise à part, sans trop d'incertitudes, sans trop de risques, et tu peux facilement lâcher une main du guidon pour manipuler des choses. Soit attraper un bidon, soit manipuler un compteur, soit allumer un éclairage, soit attraper quelque chose dans des poches dans ton dos qui sont toujours un peu trop hautes et puis qui agrippent et et ça te fait chier parce que t'arrives pas, tu prends des risques, donc tu galères. Tout ça, sont des choses qui posent problème en gravel. Moi, en gravel, le problème numéro un que j'ai, c'est que quand je suis sur un terrain qui est vraiment un terrain de gravel, trouver des moments où je suis capable de lâcher le guidon d'une main, ils sont rares. Tu vois. Donc, quelle est la réponse que l'on pourrait apporter à ça? Comment pourrais-je avoir des choses que je manipule habituellement sur la route avec une main en lâchant mon guidon, je puisse manipuler sans lâcher mon guidon, ou alors en lâchant mon guidon sans me contorsionner, c'est-à-dire sans tourner mes épaules comme ça, ce qui me fait perdre d'équilibre ou me fait dévier d'une trajectoire, etc. Tu vois ? Et ça, ce sont des vrais problèmes. Et effectivement, quelles sont les réponses qu'on peut apporter à ces problèmes-là ? Là, je pense qu'il y a un champ d'innovation qui est possible et qui est vachement intéressant. Du type, si je mets plus rien dans mon dos, pourquoi je devrais mettre des trucs dans mon dos qui sont extrêmement compliqués à utiliser? Ils étaient moins cons, hein, au début du siècle, hein, avec les poches devant sur le maillot, là, hein, sur les maillots en laine. Hein. avec du petit bouton
Bon,
pour empêcher de
sur
tomber.
la te... sur la matière, ça déconne un peu parce que tu crevais
Bah.
de chaud là-dedans et ça remonte à quand même pas si longtemps. Les maillots en laine, ou en tout cas les maillots hyper synthétiques avec les manches ici en laine, ça remonte. Et puis même au niveau du col, c'était une horreur. Mais ouais, c'est vrai que les petites poches sur le devant, c'était mortel.
Ben, enfin voilà, tu vois, tu sais, j'en reviens à Kylian Jornet, que j'ai connu il y a une quinzaine d'années, quand il débutait, qu'il avait 18 ans, et qui est arrivé chez nous à l'atelier Proto, là, en disant, bah tiens, faites-moi un t-shirt avec des poches tout autour du buste. C'était le prototype et l'ancêtre du gilet multipoche de trail qu'on a sorti 1 an et demi ou 2 ans après. Parce que Kylian, il avait compris que avoir quelque chose dans son dos, le long de la colonne vertébrale, centré, qui ballottait de haut en bas, parce que tout le poids le faisait balloter de haut en bas, que ça lui faisait mal au dos à la longue. Il s'est dit à un moment, ben je vais coudre des poches tout autour d'un t-shirt et mettre des petits trucs devant, sur les côtés, derrière, etc. Et ben c'est comme ça que le pack vest, ce qu'on appelle le pack vest, est né, et qu'on a vraiment innové dans ce domaine-là. Ça partait d'un vrai problème, qui était, ben, si j'ai un truc dans le sac à dos, je dois enlever mon sac à dos, ou à la longue, au bout de quelques heures, ça me fait mal, donc ça m'empêche d'être performant, etc., etc. Donc, c'est ce genre de choses qu'il faut aller chercher. Il faut se dire, il faut pas trouver normal des choses qui nous embêtent et qu'on considère que c'est normal qu'elles nous embêtent. Tu vois, quand je vois les gens dans le métro de Hong Kong arriver à masse devant moi en étant tous les yeux baissés devant leur portable comme ça, je me dis, mais je vais avoir 3-4 collisions, quoi, tu vois. Les gens ne regardent pas devant eux. Il n'y a personne aujourd'hui, enfin, je fais abstraction des scieries, des choses comme ça, mais il n'y a personne aujourd'hui qui cherche à traiter ce problème, qui est de, quand je marche et que j'utilise mon téléphone, je baisse les yeux et je ne regarde pas devant moi. Moi, ça m'hallucine, ça. Si j'étais une marque de téléphonie, je chercherais à trouver une solution pour que je puisse utiliser mon téléphone avec un accessoire qui me permette de regarder devant moi tout en l'utilisant. Et je ne sais pas si c'est possible, hein. Il y aura peut-être demain
Mais on a le droit de
des...
chercher.
Mais voilà, ça, ce sont des vrais problèmes. Et on se contente souvent de médiocrité parce que ça a toujours été fait comme ça. Donc si ça a toujours été fait comme ça, ben, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Bah, putain, une putain de chaîne putain de chaîne plateau, cassette, pleine de gras, etc. Ça fait quand même 100 ans que ça existe, ce truc-là, quoi. Comment on résout ce problème de lubrification de chaîne, de plateau, de cassette, et que ça devient quelque chose que l'on ne doit plus entretenir? On est quand même passé d'une Renault 5 d'il y a 50 ans ou 60 ans, avec une vidange tous les 5 000 km, à des voitures électriques que tu entretiens tous les 60 000, quoi. Donc, il doit y avoir moyen de sortir de cette putain de chaîne et de ces cassettes et de ce gras et de discuter de, tiens, ça c'est la meilleure cire, ça c'est la meilleure huile, et puis de nettoyer après chaque sortie. Enfin, tu vois, il y a plein d'exemples comme ça. Il y a plein d'exemples comme ça, quoi.
Hier, je suis tombé sur un article sur la commune de Étretat qui souffre de surpopulation touristique. Et en 2022, il y a eu 5 morts par chute des falaises sur selfie.
Ben, ouais.
C'est quand même con, hein,
Ouais,
parce
c'est quand
que
même
déjà, il
con.
n'y a pas de chute intelligente. On dit toujours, il est tombé, putain, c'est vraiment la chute bête. Mais alors, une mort intelligente, je cherche, mais ça ne me dit rien. Mourir, qu'est-ce que t'écris sur ta pierre tombale? Mort en faisant un selfie à Etretat. Ça craint, hein.
Ouais. Paix à les...
Quand même.
Paix à leur âme. Mais non, mais voilà, mais je...
Les pauvres.
Non, ce que je voulais dire, si tu veux, c'est que l'innovation, c'est simple, quoi. C'est un, ne pas avoir l'arrogance de se dire, je vais vous montrer ce que va être la voie du futur. Et plutôt qu'être centré sur une démonstration de savoir-faire, être centré sur les problèmes de l'utilisateur. Et c'est ça qui drive l'innovation, c'est être centré sur le problème de l'utilisateur. Je crève, ça m'empêche de prendre du plaisir quand je fais du vélo parce que j'ai du mal à changer mes pneus, etc. Et puis je sais pas faire, tout ce que tu veux. Comment faire en sorte de ne plus crever, quoi? Ça, c'est une vraie innovation. Comment demain je crève plus? Alors, il y a des pistes, il y a des choses qui s'améliorent, mais c'est de l'incrémental, c'est pas du radical. Il faut arriver à résoudre ces choses qu'on considère normales. Ah, bah ouais, la crevaison, ça fait partie du vélo. Bah ouais, avoir froid quand il fait froid, ça fait partie du vélo. Bah non. Bah non. Il doit pouvoir y avoir d'autres solutions.
Déménager aux Canaries.
Par exemple.
Voilà, ça c'est une.
Non, mais tu sais, quand je travaillais chez...
Voilà.
Quand je vais te donner un bon exemple. Quand je travaillais chez Suunto, donc notre équipe de R&D, moi je disais à la R&D, je disais, ben voilà, les consoles, les utilisateurs, ils sont pas contents. Ils sont pas contents parce que la batterie, elle dure pas assez longtemps. À l'époque, ça durait 5-6 heures et pas plus, quoi, tu vois, quand tu utilisais le GPS. Ben ouais, mais on ne peut pas mettre une batterie plus grosse parce que la montre, elle va être trop grosse, etc. Donc pour l'instant, on est bloqué avec ça. Mais non, la batterie plus grosse pour avoir plus d'autonomie, c'est juste une voie. Mais il peut y en avoir d'autres. Et je vais donner des trucs complètement cons. Ça peut être des bornes de recharge en pleine montagne, ça peut être du solaire que tu vas mettre sous le cadran de ta montre, ce qui existe aujourd'hui. Ça peut être plein, plein de choses différentes. Il faut juste aborder le problème différemment de ce qu'est ta solution du jour. Parce que ta solution du jour, elle est en général appliquée en fonction des capacités technologiques du jour. Mais peut-être qu'on parle d'une autre voie technologique, complètement différente. Et c'est comme ça qu'il faut arriver à raisonner. Et c'est pas simple. C'est pas simple.
Tout à l'heure, tu parlais de démonstration. J'ai l'impression que beaucoup de marques sont dans cette optique de faire une démonstration de leur capacité technique, de leur savoir-faire, ce qui est très très bien, mais sont un petit peu détachées, un petit peu déconnectées des pratiquants, et où les ingénieurs sont un petit peu bornés sur leurs idées fixes. Récemment, j'ai discuté avec un athlète sponsorisé par une marque, et là, je ne vais absolument citer personne, et me dit, bah, non, ce vélo, il n'est pas adapté, il est super en l'état, mais il n'est pas du tout adapté à la pratique qui était la sienne ce jour-là, et les ingénieurs ne veulent pas en entendre parler, et c'est bien dommage. Donc il est limité sur des choix, il est limité sur des choix de vélo que la marque veut bien lui mettre à disposition, parce qu'en plus de ses choix techniques, il y a une contrainte marketing où il n'a pas le droit d'utiliser certains vélos, parce qu'ils ne veulent pas communiquer sur cette manière d'utiliser ces vélos. Ils veulent que les vélos qu'ils font soient utilisés de la manière qu'ils ont décidé et ne soient surtout pas détournés. C'est quand même terrible.
Ouais, alors ça c'est un petit peu les contraintes des marques, hein, mais en même temps c'est quand même souvent les usages détournés qui sont porteurs de nouvelles solutions. Et
Ben oui, justement, justement.
qui montrent qu'on peut faire des choses avec d'autres choses qui n'ont pas été nécessairement conçues ou développées pour ça. C'est un petit peu un petit peu le concept de sérendipité, hein, c'est-à-dire tu trouves quelque chose d'autre que ce que tu cherches. Quelque part, c'est pas très éloigné de ça. Ouais, bah c'est dommage parce qu'en fait, l'athlète, c'est quand même lui qui prend le risque dans ces cas-là, quoi. Donc, si l'athlète a envie d'essayer quelque chose avec une idée bien précise en tête, moi je trouve dommage qu'on le brime dans cette liberté-là d'utilisation, parce que voilà, ça peut amener à des choses extrêmement intéressantes.
Je sais pas si c'est vrai, il faudrait que je cherche, ou si c'est juste une blagounette pour illustrer quelque chose qui est finalement assez vrai. Que dit un scientifique lorsqu'il fait une découverte majeure?
Je ne sais pas. N'étant pas scientifique à la base, je ne sais pas.
Et il dit, eh ben tiens, c'est marrant ça. Parce que généralement, ça vient d'une erreur ou d'un truc totalement inattendu.
Ouais.
Et il découvre un truc majeur simplement sur une connerie ou sur un truc, sur une erreur, sur un bug, et qui va aboutir à une avancée majeure. Tout simplement parce que, bah, comme tu viens de le dire, la sérendipité, c'est le hasard, c'est le destin, et ça devait se produire ainsi. Et en le cherchant, ça n'arrive pas. Et en le laissant
Ouais.
arriver, généralement, ça arrive. C'est très japonais comme truc, hein.
Ouais, ben c'est très, et ça demande un certain état d'esprit, une certaine tournure d'esprit aussi, qui est de procéder par association. C'est-à-dire que tu vois quelque chose à droite, tu vois autre chose à gauche. Quand tu arrives à relier les deux, ça te crée tout un univers de possibles. C'est intéressant de travailler dans l'innovation parce qu'il n'y a pas y a pas de certitude, il y a beaucoup d'incertitudes. C'est dans un univers de frustration permanente parce que t'essayes 10 idées ou 100 idées et puis il n'y en a qu'une qui s'avère être à peu près bonne ou acceptable. Mais en même temps, c'est génial parce que c'est d'abord être curieux, c'est d'abord être. C'est être curieux, c'est être empathique aussi, c'est ressentir le mal-être de ce que vivent les gens quand ils sont confrontés à un problème, tu vois, et vouloir y apporter absolument une solution. Non, c'est un univers qui est vachement intéressant. Et je suis un peu sur le cul de voir de voir quand même combien les marques de vélo peuvent être prolifiques Alors, je vais pas forcément dire en innovation, mais je vais dire en inventivité et en créativité pour faire passer certaines solutions pour de véritables innovations. Mais encore en même temps, voilà. J'en ai marre qu'on tire à boulets rouges sur les marques parce que faut pas déconner quand même. On a tous un petit peu de jugeote et de réflexion pour essayer de pas forcément gober tous les discours et de faire à la part des choses, quoi. Mais bon, c'est un peu la puissance de la.
Donc ça veut dire que pour toi, ça veut dire que suspendre le pilote, non, c'est pas une bonne idée en fait pour toi.
Alors, si, ça peut. Enfin, moi, tu sais, les gens qui disent, ah ben non, c'est pas une suspension parce que ça suspend pas le vélo, ça suspend le pilote. Tu vois, alors, je sais pas si c'est ce à quoi tu faisais référence, mais je trouve que moi, je trouve que c'est une solution parmi d'autres. Est-ce qu'elle est plus performante que tout suspendre à partir des axes de roue ou à partir du sol, parce que les pneus, c'est quand même quelque part une suspension. Donc voilà.
C'est quand même la première.
Ouais. Voilà, je sais pas, mais je pense qu'il faut pas être dogmatique. Il faut pas dire si c'est pas quelque chose qui suspend le vélo et le pilote, c'est pas une suspension. Bah si, quand même, parce que le pilote, c'est quand même lui qui représente 80% du poids de l'ensemble au bas mot, quoi. Donc, C'est une solution parmi d'autres.
Bon, mon grand Jean-Yves, je pense qu'on a fait le tour cette fois-ci, donc je vais t'abandonner à ta minute de solitude. Est-ce que tu vois quelque chose à ajouter malgré tout qui aurait pu échapper à notre vigilance?
Non, 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 on a parlé
Surtout qu'on arrive à la limite du temps imparti, donc il est
Ouais,
10h30.
ouais, ouais.
Donc je vais te...
C'est gentil. Non, non, je pense
Mais...
qu'on, enfin, on a évoqué plein de choses. On devait parler du vélo en bois, mais
On a parlé de ton
on a parlé de
vélo,
plein d'autres choses aussi.
mais ça... Mais c'est lié de toute façon, et j'en suis très heureux parce que c'est lié, et quand on parle de matériaux un petit peu alternatifs, ça renvoie à la comparaison à d'autres, et ça permet de mettre tout ça en perspective et de parler justement d'autres matériaux, d'autres manières, d'autres approches, et c'est hyper intéressant, ça met de la perspective dans nos pratiques, dans nos réflexions, et ça c'est parfait.
Ouais, perspective et un peu de recul et essayer d'éviter de tomber dans l'absolutisme et dans la vérité qui n'existe pas. Enfin, voilà, soyons ouverts et accueillons toutes les idées avec curiosité.
Exactement. Je te laisse pour ta minute de solitude. Quand tu as terminé, je remets ma caméra et le micro pour que l'on puisse se dire au revoir.
Ça marche.
Bon, malgré tout, je te le dis déjà maintenant. Merci Jean-Yves et à tout de suite.
Ben, avec plaisir, Richard. Ben, merci, Richard, de m'avoir laissé cette possibilité de m'exprimer autour de ce vélo en bois qui est quelque chose qui me ravit depuis un an que j'utilise la première version et depuis un mois que j'utilise ce nouveau gravel qui, j'en doute pas, va m'apporter beaucoup, beaucoup de satisfaction. Un choix qui est le résultat ou la résultante d'un mélange de passion, d'émotion et de raison qui est en ligne directe avec ma façon de voir les choses qui est balayons les croyances, balayons les certitudes, il n'y a pas de vérité, soyons curieux. Et accueillons tout ce qui peut paraître intéressant avec de la bienveillance. Voilà. Il n'y a pas d'absolu, hein. Il n'y a pas d'absolu dans la technologie, il n'y a pas d'absolu dans la science, il y a juste ce que l'on pense être une vérité du moment. Voilà. Je ne sais pas comment dire plus que ce message-là, parce que je trouve que parfois il y a quand même beaucoup de dogmatisme, d'agressivité dans les communications et les relations qu'on peut avoir, notamment au travers des réseaux sociaux. Mais tout avis est intéressant et prenons-le avec bienveillance. Ben merci Richard et puis à très bientôt, j'espère. Parce que c'est toujours un moment intéressant de discussion avec toi. Voilà, on part d'un endroit, on arrive à un autre en passant par la gare de Trifouille-les-Oies, mais c'est toujours assez marrant et intéressant. À très bientôt tous, et puis belle journée à vous.